Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, on peut peut-être donc reprendre et pour faire un passage ou un pont entre ce que je disais sur l'effet de lecture qui permet de reconnaître des Don Quichotte dans le monde social, alors même que ces personnages ne se prétendent pas être s'être déguisés en un tel héros de la fiction, et d'autre part l'emploi sous forme de masque ou de déguisement de la référence à Don Quichotte dans des tournois ou des cortèges ou des fêtes, on peut prendre un texte intermédiaire qui est cité par Pedro Cátedra dans le livre que j'évoquais, donc El Sueño Caballeresco, puisque c'est un récit d'un voyageur allemand, mais qui écrit en espagnol, en 1605 ou 1606, là encore très tôt après la publication de Don Quichotte. Et dans ce texte de ce voyageur allemand, on rencontre la mention suivante. Il décrit les goûts des Espagnols. Il a intitulé son récit de voyage « Relación de las calidades de los españoles », la relation des qualités des Espagnols. Et il mentionne différents traits, dont l'un est les lectures. Et il écrit « Des livres de chevalerie et de divertissement, libros de caballería y de entretenimiento, il y en a beaucoup. Et la plupart d'entre eux, impertinentes, impertinents, sans valeur. Aunque hay algunos muy lindos, bien qu'il y en ait certains qui sont très, très bons, très beaux, et pour le moins bien reçus. Et ce sont, a lo menos bien recibidos, y son, et il cite quatre titres, La Celestina, Lazario de Tormes, Primera parte del Pícaro et Don Quijote de la Mancha. Et Pedro Cátedra commentait cette liste comme étant très curieusement, dès 1605 ou 1606, une des listes les plus canoniques possibles de la littérature espagnole, puisqu'évidemment la Celestina et la Tragicomédie, premier acte, auteur anonyme, 18 actes ajoutés par Fernando de Rojas, Lazario de Tormes, premières éditions, milieu du XVIe siècle, texte fondateur du roman picaresque. L'allusion à Primera parte del Pícaro, c'est une allusion à la première partie du Guzmán de Alfarache, deuxième grand roman picaresque dû à Matteo Alemán, et finalement Don Quijote de la Mancha. C'est-à-dire ici la qualification finalement des textes les mieux reçus et les plus dignes d'intérêt à partir de ces trois genres, qui sont sans doute l'apport le plus essentiel de la littérature espagnole du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle à la littérature mondiale, la tragicomédie, dans le cas de la Celestina, le roman picaresque, Lazario Guzmán et le Don Quichotte. Alors, mise en place donc cette présence des références à des lectures, à une puissante circulation et en plus à une réception intense, on peut comprendre pourquoi que Don Quichotte va apparaître très tôt dans ses fêtes de cours ou dans ses mascarades populaires. Deux exemples, un sur lequel il n'y a pas d'informations très développées, simplement 1608, à l'entrée du duc de Lerma. Le duc de Lerma était le principal ministre, en espagnol on dit valido, du roi Philippe III. Et il entre dans une petite ville d'un domaine qui a été incorporé à ses propres biens, la ville de Tudela del Duero. Et la relation de cette entrée du duc de Lerma dans cette ville s'accompagne d'une mention d'une corrida, d'une course de taureaux qui a lieu sur la place de l'hôtel de ville et dans laquelle on représente, je cite, les aventuras del caballero Don Quijote, les aventures du chevalier Don Quichotte, 1608. Mais le cas sur lequel je voudrais m'étendre un peu plus, c'est un cas doublement intéressant, d'une part parce qu'il est antérieur, 1607, on se rapproche sûrement de la date de la Commedia de Guillén de Castro, et d'autre part, parce que c'est un cas qui nous mène de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire dans les colonies espagnoles, et en ce cas-là, dans celle du Pérou. En 1607, une fête qui est en fait un tournoi ou une course de bagues, c'est-à-dire une compétition dans laquelle les chevaliers qui s'opposent ne sont pas dans un duel ou dans un affrontement de tournoi, mais doivent réussir à pointer leur lance à l'intérieur d'une cible qui est placée au milieu de la carrière sur laquelle ils courent à cheval. Et donc c'est une ville du Pérou qui n'est pas Lima, mais qui est Paosa. Et dans cette petite ville qui appartient à une province, à une immense majorité d'Indiens, la province de Parinacochas, il s'agit pour le corregidor, l'administrateur de la ville, de célébrer la nomination toute récente d'un nouveau vice-roi du Pérou, qui s'appelle Don Juan de Mendoza y Luna, marquis de Montes Claros. Et il organise une fête. Et nous avons la relation de cette fête, dans laquelle, comme je le disais, il organise une compétition appelée Fiesta de Sortija. Sortija renvoyait à cette course à la bague et qui va opposer un certain nombre des membres de l'élite espagnole de la ville de la petite ville de Paosa, P-A-U-S-A. Et tous vont se présenter pour ce tournoi déguisés en chevaliers de romans. Tous vont puiser dans leur bibliothèque, leurs souvenirs de lecture, leurs références, un personnage dont ils vont prendre le masque. Le corregidor lui-même, l'administrateur de la ville, qui est en même temps celui qui organise le tournoi, ce que l'on appelait en espagnol mantenedor, apparaît d'abord comme le Caballero de la Ardiente Espada, le chevalier à l'épée ardente, qui était un surnom d'un des Amadis, l'Amadis de Grèce. Puis, une fois abandonné son rôle d'organisateur, il devient l'un des compétiteurs et il change d'habit et concourt comme Bradaleon. D'autres vont entrer dans cette joute comme s'ils étaient, un, le chevalier antarctique, avec une compagnie de plus de 100 Indiens qui l'accompagnent, parce que chacun entre dans la compétition accompagné d'une suite. Et dans ce cas-là, le Caballero Antartico est accompagné par 100 Indiens, 100 Indiens véritables, qui sont des habitants de la province de Parinacochas. Un autre, le chevalier de la forêt, Caballero de la Selva, est précédé par 4 sauvage. Un autre, le chevalier aventureux, Caballero Venturoso, apparaît en habit de maure, en habit des musulmans d'Espagne convertis après 1492, et surtout dans la partie mauresque ou morisque de la population espagnole. Et au milieu de tous ces chevaliers de romans, de tous ces chevaliers de papier, de littérature, l'un d'eux, Don Luis de Córdoba, qui indique la relation, est dans ce royaume connu sous le nom de Luis de Galvez. On voit ici quel type de... Cette seule mention montre comment la recherche de l'aventure dans la colonie peut entraîner des doubles identités. Ce Don Luis de Córdoba est présent dans le monde du Pérou colonial sous un autre nom. Il a choisi aussi un autre héros, donc non pas l'un des chevaliers des romans de chevalerie, mais il apparaît comme, je cite, le Caballero de la Triste Figura, Don Quixote de la Mancha, tan al natural y propio de como lo pintan en su libro. Donc le chevalier à la triste figure, Don Quixote de la Manche, aussi exactement et qu'il est peint dans son livre. On retrouverait presque l'expression de l'indication scénique de Guillén de Castro, tal como lo pintan en su libro, et ici, tan al natural y propio, tan exactement, adéquatement, à la façon dont il est représenté dans son livre. Ce qui amenait évidemment immédiatement une question qui est qu'est-ce qui peut être connu du Quichotte en 1607 dans cette ville de province de la colonie du Pérou. Et la question qui est du coup posée, qui nous éloigne non pas considérablement, mais d'une certaine manière, de mon propos du départ, c'est-à-dire analyser la Commedia de Guillén de Castro, mais pour rendre compte de l'impact puissant de la circulation du Quichotte, est la question qui avait été posée dans des travaux classiques sur les livres qui ont traversé l'Atlantique, depuis Séville jusque soit au Mexique, soit en Colombie, soit au Pérou, et qui ont été envoyés dans la colonie. Et donc, du coup, la question plus particulière, quelle était la présence du Don Quichotte de Cervantes dans ce monde colonial des Indes espagnoles. Il y a plusieurs manières d'essayer de répondre à cette question. Plusieurs historiens, depuis l'un qui était plus fameux que d'autres, Irving Leonard, et des collègues espagnols plus jeunes et qui ont travaillé plus récemment, ont utilisé les mêmes fonds, c'est-à-dire l'Archivo General de Indias, l'Archive Générale des Indes, qui se trouve à Séville et où, pour chaque bateau, sont notés soigneusement tous les livres qui sont embarqués, soit parce qu'ils sont embarqués par des libraires qui envoient des caisses de livres à des correspondants qui sont déjà installés à Mexico ou à Lima, ou à Cartagena de las Indias, soit parce qu'avec le souci de censure et de contrôle qui est celui de l'Espagne du début du XVIIe siècle, y compris les livres qui sont transportés par des voyageurs individuels, sont notés dans ses archives générales des Indes. Et à la fois les travaux d'Irving Leonard et les travaux plus récents, par exemple de Carlos Alberto González Sánchez, ont utilisé ces sources pour essayer de repérer quels étaient les titres ou les genres les plus fréquemment transportés de la métropole aux colonies. Dans la seule année 1605, lorsqu'on suit ces différents travaux, on voit par exemple que 262 exemplaires du Quichotte sont embarqués sur un bateau qui s'appelle l'Espiritu Santo par un certain Clemente Valdés, vecino de Mexico. On peut penser donc qu'il s'agit là de livres qui sont embarqués pour la vente en librairie. 100 autres exemplaires sont adressés sur un bateau du même nom, mais qui est différent, à Cartagena de las Indias. 3 exemplaires font le voyage sur Nuestra Señora del Rosario, qui aussi doit débarquer à Cartagène et qui sont destinés à un certain Juan de Guevara. Et sur un autre bateau, un marchand, Andrés de Hervas, envoie 160 exemplaires en Nouvelle-Espagne. On voit donc qu'il y a un commerce de librairie entre des libraires de la métropole et des correspondants installés à Mexico, Cartagena ou Lima, qui est extrêmement important. Dans un cas, on peut suivre plus précisément ce commerce de librairie en essayant d'y repérer la place que tenait Don Quichotte. Il s'agit d'une série de documents, aussi bien à Séville qu'à Lima, qui montrent comment, en mars 1605, là on est de plus en plus près de la mise en circulation de la première édition du Quichotte. Je vous rappelle qu'elle a été imprimée à la fin de 1604 dans l'atelier de Juan de la Cuesta et qu'elle est mise en circulation au début de 1605. En mars 1605, un libraire de Alcalá de Henares, Juan de Sarria, adresse à un confrère de Lima qui s'appelle Miguel Méndez 61 caisses de livres. Et au cours du très long voyage qui va depuis Alcalá, Sevilla, Lima, 8 caisses sont vendus à Panama et 8 autres caisses sont séparées pour être envoyées directement à Lima. Et les unes et les autres contenaient très vraisemblablement ces 16 caisses des exemplaires du livre de Cervantes. Il en reste donc 45 qui sont réceptionnées par Juan de Sarria, le fils du libraire de Alcalá, qui s'est installé à Lima. Et un inventaire est dressé, 2895 volumes, 72 exemplaires de Don Quichotte dans ces 45 caisses de livres qui sont arrivées, réceptionnées par le fils de Juan de Sarria. Et Juan de Sarria va emporter 9 de ces exemplaires à Cusco, c'est-à-dire l'ancienne capitale de l'empereur Inca, qui est maintenant une cité espagnole. Et 63 vont rester dans la capitale Lima. Et l'intéressant, est-ce que pour aller de Lima à Cusco, il faut suivre un chemin qui passe justement par la ville de Pausas, dans laquelle, je le signalais, il y a cette joute qui est organisée et où l'un des protagonistes va se déguiser en Don Quichotte. Alors, il est clair qu'il est sans doute exagéré, comme le faisait Irving Leonard, de dire que la quasi-totalité de la première ou des premières éditions du Quichotte ont été envoyées en Amérique. Mais il est vrai néanmoins que, d'une part, un intense commerce de librairies entre les villes espagnoles, à commencer par Alcalá de Henares, et les Indes espagnoles, Mexico, Cartagena et Lima, existent, et qu'il y a là une puissante exportation ou importation des quichottes dans l'Amérique espagnole, et que d'autre part, on le voit, mais alors, au hasard des archives de l'Inquisition de Mexico, par exemple, qu'un certain nombre de passagers embarqués sur différents navires, soit pour lire pendant la très longue traversée, soit pour lire à l'arrivée, ont emporté avec eux un exemplaire du Quichotte de Cervantes. Alors qu'on comprend pourquoi à Pausa, dans cet endroit de la province des Indiens Paranacocha, il pouvait être possible en 1607 de proposer un divertissement qui soit une joute dans laquelle chacun se déguise en chevalier et parmi eux, un peu sur le modèle des tournois que j'évoquais du début du XVIe siècle, une figure parodique, celle de Don Quichotte, qui est la parodie de tous les autres qui se sont lancés dans la carrière pour cette course de bagues. Alors le Don Quichotte qui apparaît, d'après la relation, est monté, comme on l'attend, sur un cheval efflanqué, mais il est doté d'un casque orné de plumes et d'une fraise. Morion, le casque, con mucha plumería de gallos, avec une très abondante panache de plumes de coq. Cuello de dos sables, un col de douzaine, c'est une expression pour désigner ces très longs cols. Je traduis par fraise, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agirait, oui, d'un col extrêmement développé, qui d'ailleurs avait pu être l'objet d'une critique des lois somptuaires, puisque dans les États du XVIe et XVIIe siècle, il y a des réglementations en rapport avec ce que je disais pour commencer, c'est-à-dire le comportement, la conduite et l'apparence doivent aller de pair avec l'État, la condition ou l'ordre, et donc du coup des restrictions vestimentaires qui limitaient à certains, par exemple aristocrates, certains types de vêtements. Et là donc on a face à un Don Quichotte qui est avec ce casque très fortement empanaché et d'autre part ce col très imposant et qui caractérise les habits aristocratiques. Et on voit très bien que cette description de la relation ne correspond pas du tout à ce qui est dit lorsqu'elle est évoquée dans la même relation que le Don Quichotte qui est apparu pour la joute était tan al natural y propio de como lo pintan en su libro, tan naturel, exact, adéquat à la manière dont il est peint dans le livre. Il n'y a dans la première partie du Quichotte aucune description de Don Quichotte par Cervantes qui puisse correspondre à ce type de casque empanaché ou de vêtements spectaculaires. Là, justement, et c'est là où le travail de Pedro Cátedra était fondamental, c'est de montrer que ce Don Quichotte de 1607 de Pausas n'est pas peint au naturel, enfin n'est pas déguisé au naturel comme on le peint dans son livre, mais il reprend en charge cette tradition des chevaliers de parodie, le chevalier du monde à l'envers, le chevalier qui donne les figues à la verte, et qu'il assume ce rôle, mais évidemment avec des ornements qui sont ceux des autres chevaliers, dont il est la parodie, c'est-à-dire les chevaliers des romans de chevalerie. Il est accompagné à Paosas, dans cette fête péruvienne, par un Sancho, juché sur un âne, portant le haume de Membrin. Il est accompagné par le curé et le barbier, vêtu en écuyer. Il est accompagné aussi par la Infanta Micomicona. Vous vous souvenez de ce moment dans lequel les deux intrigues se nouent, lorsque Dorothea, qui a été rencontrée par le barbier, le curé et Cardenio, accepte d'entrer dans le tour que le barbier et le curé veulent jouer à Don Quichotte pour le persuader de revenir à son village. Et ce qu'ils imaginent, c'est qu'une princesse éplorée qui a perdu son royaume confisqué par un méchant géant vient demander secours au chevalier errant, et il la baptise Micomicona, du royaume de Micomicone. Et cet élément qui va pour un temps lier étroitement Don Quichotte avec l'histoire des amoureux est reprise en charge ici avec cette personnification de la princesse Micomicona. La fête, qui mériterait une analyse plus détaillée, que peut-être à faire en séminaire en suivant le texte, est une fête très symptomatique de ce qu'est le monde des Indes espagnoles, puisque l'on y voit à la fois des chevaliers de littérature, donc ceux de cette élite espagnole, élite locale, élite de la colonie, se sont déguisés en chevaliers de littérature. On y trouve de véritables Indiens qui jouent leur propre rôle et qui accompagnent certains de ces chevaliers. On y trouve aussi de faux Maures, c'est-à-dire cette autre réalité de l'Espagne du XVIe et XVIIe siècle, qui est la réalité dans laquelle une part importante de la population après la Reconquista est formée par ces Maures théoriquement convertis de gré, de force plus que de gré au christianisme, et qui sont les Moriscos, et qui justement, dans ces mêmes années, 1609, vont se trouver expulsés par Philippe III avec le soupçon que leur conversion n'est pas réelle et qu'ils continuent la fidélité à la foi de Mahomet. Et on y trouve comme spectateur l'élite espagnole des administrateurs et de leurs femmes ou de leurs filles. Et donc cette fête de Paros, c'est comme un condensé, une rencontre entre les Espagnes, l'Espagne de la littérature chevaleresque, l'Espagne de l'administration coloniale, l'Espagne des populations indiennes soumises et l'Espagne des Maures reconquis et convertis. À la fin de la journée, un prix est donné pour celui qui a fait la meilleure invention, et il est donné au Caballero de la Triste Figura, à ce aventurier noble qui avait joué ce rôle, pour l'exactitude de sa représentation et le rire général qu'elle a créé. Donc, on voit qu'elle a suscité. On voit là un des cas les mieux documentés, mais il y en a d'autres, mais pas forcément aussi précoce après la publication du Quichotte, dans lequel le personnage de papier est personnifié sous un masque et sous un déguisement dans une joute qui oppose les chevaliers, ou les cavaliers pour le moins, de Paosas. Et un thème important serait de suivre, au-delà des limites chronologiques que je me suis imposé pour cet exposé, qui est très très lié aux premières années de la réception du Quichotte, serait de suivre sa présence maintenue dans tout un ensemble de fêtes, soit en Amérique, et on a par exemple à Mexico en 1621, lors de la fête de béatification de San Isidro, un cortège qui est organisé par les ouvriers de la Plateria Real, c'est-à-dire de l'hôtel des monnaies de Mexico, et qui, dans une fête religieuse, pour béatifier la béatification de San Isidro, va mettre en scène, ou en cortège, les personnages de Don Quichotte, à commencer par Don Quichotte. Et parallèlement, en Espagne, dans les années 1610 ou 1620, peut-être avec une plus grande densité après la publication de la seconde partie de Don Quichotte en 1615, on aura de la même façon cette association entre des fêtes religieuses, béatification puis canonisation de Thérèse d'Ávila, et la présence de Don Quichotte et de l'un ou l'autre, Sancho évidemment, mais de l'un ou l'autre de ces personnages, des personnages qui l'accompagnent dans, dans l'histoire. Donc une personnification perpétuée à travers les Don Quichotte qui apparaissent dans des fêtes qui ont toutes les caractéristiques, soit ce sont des fêtes chevaleresques, aristocratiques, écuriales, soit ce sont des mascarades populaires, soit ce sont des fêtes religieuses pour béatifier ou pour la béatification ou la canonisation d'un nouveau saint, mais qui font place à l'intérieur de cette forme de dévotion, à la diversion, c'est-à-dire à la figure comique de Don Quichotte. Ce qui paraît donc, quand on essaye de repérer ce que pouvait être la présence de Don Quichotte dans le monde ou les mondes espagnols du tout début du XVIIe, dans les mois ou les années qui suivent les premières éditions de 1605, on peut donc, comme je le disais, essayer de repérer la circulation des exemplaires des éditions imprimées et du coup de voir que leur lecture a été si puissante pour certains qu'ils sont transformés en Don Quichotte eux-mêmes, ces lecteurs, c'est-à-dire qu'ils appliquent au monde social une figure de fiction. On peut suivre la présence d'une incarnation, d'une personnification de Don Quichotte et de ses compagnons à travers des dispositifs festifs. On pourrait aussi suivre, mais pas en Espagne à ma connaissance, la première iconographie du Don Quichotte, c'est-à-dire cette tension qui peut exister entre une iconographie qui va se caler sur les descriptions de Cervantes dans le texte imprimé. Et c'est, comme je le disais, me semble-t-il, 1618, le premier frontispice pour une édition en français de la traduction de la seconde partie qui ouvrirait cette série. L'autre série est plus antérieure, mais pas nécessairement espagnole. Elle est celle de ces gravures qui vont représenter des cortèges carnavalesques dans lesquels Don Quichotte va apparaître. Et il y a un exemple fameux qui est une gravure allemande de 1614 qui représente un défilé festif, très largement carnavalesque, qui a été organisé dans la ville de Dessau pour célébrer le baptême du fils héritier du prince d'Anhalt. C'est une fête documentée qui a eu lieu en 1613 et en 1614, l'année suivante, dans un livre qui rassemble une iconographie qui est la mémoire de cette fête de Dessau, on y rencontre une gravure qui maintenant a été reproduite dans plusieurs manières, qui est une gravure qui déroule un défilé carnavalesque ouvert par un nain, et ce nain, c'est celui qui a été rencontré par Don Quichotte dans l'auberge de Juan Palomeque lors de la première sortie. Et en suivant l'ordre des personnages, après le nain, le curé, qui porte un moulin à vent, le barbier, qui lui porte un tonneau et qui est une évocation un peu décalée des outres de vin qui, je le rappelais, sont prises pour le géant tyran de la princesse Micomicona et que Don Quichotte transperce pendant que les autres personnages écoutent ou l'un d'eux, le curé, lit la nouvelle du Curioso Impertinente, suit la Dulcinea de Toboso, et puis vient El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Caballero de la Triste Figura, parce qu'il y a des légendes sur chacun des personnages et qui sont en espagnol, enfin curieux espagnol, puisque l'un est plus ou moins italianisé pour Sancho Panza, Scudiero Don Quijote. Et alors le Don Quichotte de la Manche, qui est un chevalier de la Triste Figure, qui est présent dans cette gravure allemande de 1614, et qui l'était sans doute dans le cortège festif de l'année précédente, est un de ces Don Quichotte de cour, un de ces Don Quichotte de fête de cour, puisqu'il est, comme dans la description de Pausas, doté d'un casque très profond, profusément panaché, et d'une large fraise. Il ne s'agit donc pas du Don Quichotte du livre, mais du Don Quichotte, figure parodique, assumant toute une tradition, comme à la fois moquerie, mais en même temps imitation, des chevaliers empanachés qui sont les incarnations de ceux qui sortent des livres de chevalerie. Et le cortège se clôt, suite avec Sancho sur son âne, Maritorne, la servante de l'auberge, et puis un char sur lequel a été édifié le château que Don Quichotte imagine lors de sa première sortie et qui est en fait l'auberge dont on a parlé. Et au sommet de la tour de ce château, un autre nain annonce au son de sa trompe l'arrivée du chevalier, tout comme dans la rêverie de Don Quichotte. Cette gravure, donc due à un graveur qui s'appelle Andreas Brettschneider, a représenté ce défilé festif. Et on sait que dans l'Allemagne du début du XVIIe siècle, cette fête n'a pas été la seule, puisque pour une entrée dans la ville de Heidelberg, en 1613, Don Quichotte est présent, défiant dans un tournoi ses pairs en chevalerie. Et cette la relation de cette autre fête de 1613, pas celle de Dessau, mais celle de Heidelberg, est intéressante pour un détail qui la lie avec tout le propos de cette analyse, puisque cette fête à Heidelberg, en 1613, elle est donnée en l'honneur de prince électeur du Palatinat, Frédéric, et de la femme qu'il vient d'épouser, c'est-à-dire Élisabeth, la fille de Jacques Ier d'Angleterre, c'est-à-dire le couple, l'électeur palatin et Élisabeth, qui quelques mois auparavant avait assisté à Whitehall à la représentation de Cardenio qui a été jouée par les Kingsmen en 1613, deux fois, et la première pour célébrer en l'honneur de ce mariage entre Frédéric, prince palatin, et Élisabeth, fille de Jacques Ier. Ils ont donc eu une année très quichotesque, puisqu'ils ont commencé avec la représentation de Cardenio pour ensuite assister à ce cortège dans lequel un Don Quichotte de parodie par rapport aux chevaliers des romans est montré dans les rues de Heidelberg. Alors, il reste un quart d'heure, je vais garder pour la prochaine fois la suite de l'analyse de la Commedia de Guillaume de Castro, une fois revenu de ce détour, mais qui n'en était pas un, qui est un détour pour essayer de comprendre, un peu comme je l'ai fait dans le cas anglais, qu'est-ce qui pouvait être pour les spectateurs, les lecteurs de l'Espagne et des Espagnes des années 1605-1608, Don Quichotte. Quels étaient les véhicules qui donnaient accès au texte, quelles étaient les manières à travers lesquelles une représentation mentale des personnages pouvaient se construire et quelles étaient finalement les traditions qui pouvaient s'inscrire une présence de Don Quichotte. Et je crois qu'en suivant cet apport, me semble-t-il, fondamental de Pedro Cátedra, on peut corriger ce qui serait une tentation, c'est-à-dire la tentation réaliste d'appliquer comme modèle général ce que je décrivais comme pratique de notre noble portugais à la fête de Valladolid de 1605, c'est-à-dire d'une identification réaliste, soit de personnages réels, soit de déguisements de cour, avec le Don Quichotte tel qu'il est peint dans son livre. Affirmation constante que l'on a rencontrée dans la fête ou dans la Commedia. Mais montrer que face à cette application réaliste de Don Quichotte sur le monde social ou dans les divertissements festifs, il y a un contrepoint qui s'inscrit dans une traduction de plus longue durée, préalable au texte de Cervantes, le texte de 1605, et qui renvoie à cette chevalerie de papier devenue chevalerie en représentation et qui caractérise, depuis le début du XVIe siècle, tout un ensemble de fêtes et de divertissements en Espagne. Alors, pour terminer, puisque cette idée a été puisée dans le livre de Pedro Cátedra, j'aimerais, prolongeant les séminaires qu'il a fait ici, réfléchir avec lui sur la thèse centrale qui est développée parce qu'elle peut toucher non seulement à cet élément, c'est-à-dire un Don Quichotte qui s'inscrit dans une tradition parodique qui le précède, et une tradition parodique qui était moins textuelle que festive, c'est-à-dire incarnée dans des tournois et des joutes, et comment, à partir de cette perspective, faire retour sur les significations du Quichotte dans son temps. Puisque non seulement il y aurait la question à poser de comment des lecteurs ou des spectateurs ont eu accès si rapidement à ce texte, et donc comment il a envahi leur imaginaire, leurs songes, leurs représentations, mais est-ce que c'est possible de savoir sur quel registre le livre a pu être lu? Et une réponse immédiate est évidemment la réponse qui renvoie à ce registre de la parodie, du comique, du ridicule, qui est le premier Don Quichotte, et dont nous allons trouver dans la Commedia de Jean de Castro de multiples exemples, c'est-à-dire un Don Quichotte qui non seulement est accompagné par Sancho, qui joue ce rôle du gracioso de Commedia, du personnage qui fait rire, mais même qui est lui-même l'incarnation de ce personnage grotesque, ridicule et risible. Il y a donc ce déchiffrement-là du fou gracieux. Mais il y a sans doute un autre déchiffrement possible qui est celui suggéré par Pedro Cátedra lorsque, dans le sous-titre de son livre, il donne « De la Cavalleria de Papel », de la chevalerie de papier, de ses éditions multiples du début du XVIIe siècle, et d'ailleurs, à la fin du siècle, une nouvelle poussée de la présence de la chevalerie de papier avec de multiples manuscrits ou de multiples formes des romans devenus romances. Al sueño real de Don Quijote, au songe, et je pense qu'il y a un jeu de mots volontaire de Pedro Cátedra, parce que le songe ou au rêve réel ou au rêve royal, c'est le même mot en espagnol, réal. Et qu'est-ce qui est visé là? C'est le fait qu'après, ou dans les années 1560, c'est-à-dire au moment d'une certaine retombée de la présence des romans de chevalerie, on voit les éditions devenir moins nombreuses. Mais au moment aussi où, dans les fêtes, reste présent cette figure des chevaliers de parodie, il y a un moment historique tout à fait particulier, assez peu commenté par ceux qui se sont attachés au Don Quichotte, et qui est le moment où Philippe II entreprend de redonner une importance sociale réelle et royale, réelle, à ce monde des hidalgos, c'est-à-dire de la petite noblesse, par une série de textes leur permettant ou obligeant à retrouver un rôle militaire, non pas pour aller se battre sur les terrains extérieurs, mais à l'intérieur du royaume, en reconstituant des milices composées par les petits nobles, qui ont des revenus suffisants pour pouvoir avoir une monture, pour pouvoir s'armer et pour deux fois l'année être l'objet d'une revue menée par les capitaines ou les commandants de l'armée. Et ces mesures, qui sont des mesures de 1562 puis 1572, ont la forme d'une relation, d'une cédule passée entre le roi et les villes. Certaines villes vont être très réticentes, d'autres non. Et on voit pendant les années 1560-1570 le retour possible à un rôle militaire donné à la hidalguía, à ces petits nobles, classe à laquelle appartient Don Quichotte, c'est-à-dire Alonso Quijano ou Quijada. Et ce que veut montrer Pedro Cátedra avec ce rappel historique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un déclin inexorable du rôle administratif ou militaire de la petite noblesse avec la construction de l'État de justice et finance, c'est de montrer qu'à ce moment-là, des années 1560-70, sans doute des années dans lesquelles le personnage imaginaire Alonso Quijano a une trentaine d'années, il y a le songe possible d'une restauration du rôle militaire de cette petite noblesse, et qui est sans doute le rêve de Don Quichotte. Ce rêve de Don Quichotte, tout entier fondé sur le dérangement mental, le dérèglement mental produit par la lecture des romans de chevalerie, rencontre une conjoncture historique. Elle rencontre ce moment où un Alonso Quijano ou un pouvait penser à retrouver un rôle militaire et donc social qui lui avait été dénié à la fois par le développement des armées de métier et par la construction d'un État bureaucratique centralisé et de justice et de finance. Et ce qui est la lecture possible dans les années 1605, c'est à la fois de replacer dans cette conjoncture historique cette figure de l'Hidalgo récupérant ou pensant récupérer ou rêvant de récupérer cette fonction, et d'autre part, la vanité au sens de la destruction, de l'impossibilité de ce rêve, puisque dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, cette restauration d'un rôle militaire entre en faillite et n'a aucune réalité sociale, même si dans de nombreuses villes, ces hidalgos, cette petite noblesse, avaient reconstitué des compañías, des cofradías, c'est-à-dire des confréries, des compagnies, qui était comme une forme de sociabilité donnée à ce retour à un rôle militaire. Mais cette tentative échoue, et à partir de ce moment-là, il y a à la fois la désillusion de ceux qui avaient pensé possible cette restauration. Il y a aussi le fait qu'à partir de ce moment-là, la chevalerie va passer à la fois dans la réalité sociale et dans le monde imaginaire de cette vision traditionnelle, militaire, guerrière, à la vision de cour. Et si on pense aux deux parties de Don Quichotte, on peut les ajuster à ce schéma. C'est-à-dire que la première partie à la fois voit ou présente un Alonso Quijano qui est situé dans une conjoncture où la déraison de ses lectures pourrait trouver une application dans le monde social, avec cette nuance ou différence, c'est que les petits nobles qui pouvaient être appelés dans ces compagnies ou ces confréries militaires devaient montrer un niveau de fortune qui visiblement n'est pas celui de Don Quichotte. Et donc, ce qui le rend ridicule de ce point de vue-là, en dehors du rêve de lecture, ce qui le rend ridicule ou pathétique, c'est le fait qu'il rêve d'un destin social qui, de toute façon, lui serait interdit, puisque ce n'est pas avec Rocinante ou un casque de papier ou de carton que l'on pouvait entrer dans ces confréries. Et donc, la subtilité du rire que peut produire en 1605 à un lecteur espagnol le Quichotte est liée à cela. Elle est moins liée à l'absurdité radicale de ce qui aurait été possible dans des années 1560 ou 70 qu'elle est liée, c'est-à-dire en retour des Hidalgos dans un rôle militaire, qu'elle est liée au fait que Don Quichotte est de toute façon écarté par sa condition lamentable, socialement, économiquement lamentable, de cette possibilité. Mais la cible est bien cette retour dans le monde social d'un modèle chevaleresque qui avait été celui de la chevalerie de papier, puis de la chevalerie représentée dans les tournois ou les fêtes nobiliaires, et réassumée par Philippe II avec ses ordenanzas ou ses cédulas des années 1560-1570 dans une dimension militaire au service de la monarchie. Et de là, el sueño real, réel et royal. Si on pense à la deuxième partie du Don Quichotte, 1615, on y voit un Don Quichotte qui est beaucoup plus souvent moqué ou objet de la parodie et du ridicule en rapport avec la chevalerie de cour, avec cette quatrième chevalerie que Pedro Catedra désigne Caballeria Cortesana. Et lorsque Don Quichotte se trouve avec le duc et la duchesse, c'est que, comme musicien, danseur, poète, avec tous les attributs d'une aristocratie ou d'une noblesse totalement à distance d'un rôle judiciaire, administratif et militaire, inscrit dans un modèle courtisan qui devient là la cible dans laquelle Don Quichotte joue avec ridicule ce nouveau rôle offert, proposé aux membres de l'élite nobiliaire. On voit donc que la cible s'est déplacée, mais en tous les cas, ce que suggère une telle analyse, c'est évidemment que par rapport à toutes les projections rétrospectives sur le sens que peut avoir ou pouvait avoir le Don Quichotte, une analyse historiquement fine, localisée, précise, peut éviter les contresens. Bien entendu, Don Quichotte est un livre ouvert à toutes les interprétations et elles n'ont pas manqué depuis 1605 ou depuis l'hiver de 1604. Mais si l'on est sensible ou si l'on recherche ce qui est un peu le projet que j'essaye de suivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'était Don Quichotte pour ses lecteurs ou ses spectateurs en Angleterre, en Espagne, bientôt dans les prochains séminaires en France, au début du XVIIe siècle, il y a un travail de reconstruction historique qui est absolument nécessaire, travail qui passe par le repérage des formes de circulation du texte, y compris hors le texte, mais travail qui passe aussi par cette reconstruction d'un horizon possible d'interprétation et qui mobilise des éléments qui ne sont pas dans le texte. Par exemple, cette histoire en quatre temps de la chevalerie ou du modèle chevaleresque dans l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles, le temps de la littérature des romans et romances, le temps qui est articulé sur le premier du modèle chevaleresque mis en représentation dans des divertissements, des fêtes et des tournois, le temps d'un retour à un modèle chevaleresque dans son efficace ou sa présence historique dans la dimension militaire des réformes de Philippe II, et après l'échec, la disparition de cette tentative, le temps d'une chevalerie totalement inscrite à l'intérieur d'un modèle d'une culture de cour. Et dernier mot, ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi ou comment la destruction de la bibliothèque de Don Quichotte par le curé et le barbier peut être comprise ou a été comprise ou a dû être comprise avec des registres multiples. L'un, le plus immédiat, c'est le registre de la narration, c'est-à-dire ces livres ont rendu fou Don Quichotte, si on les brûle, il pourra peut-être revenir à la raison. Erreur fatale, puisque cette bibliothèque est devenue mémoire et qu'il peut faire venir à sa mémoire les textes qu'il a, comme un peu selon les anciens arts de la mémoire, profondément intériorisés. Un deuxième registre pouvait être celui d'une parodie ou dénonciation, comme on voudra, des autodafés de l'Inquisition et la destruction des livres hétérodoxes et hérétiques par les tribunaux de l'Inquisition. Mais un troisième registre, mentionné par Pedro Cátedra, pouvait être la distance prise à ce moment de tournant de la fin du rêve, du retour à une chevalerie militaire et de la destruction, de la démonisation du genre chevaleresque dans ses formes anciennes, pour conduire soit à une noblesse qui abandonne cette rêverie, soit à une société de cour. La destruction de ces bibliothèques qui étaient nourries par tous ces modèles chevaleresques, les zones fiction, les romans dont j'ai parlé, mais d'autres qui étaient des traités de type de courtoisie. Pedro Cátedra rencontre dans certains inventaires de bibliothèques nobiliaires des disparitions lorsque deux inventaires ont été faits pour la même bibliothèque à certaines distances de temps. La même disparition que dans la bibliothèque de l'Hidalgo des textes qui constituaient le corpus de la chevalerie de papier, c'est-à-dire les romans et d'autre part des traités normatifs ou des traités de comportement et de conduite. Et donc, du coup, cet éloignement dans les pratiques réelles de nobles de chair et d'os trouverait comme son écho, ça jouerait comme un rôle de matrice par rapport à la compréhension de la destruction des livres de Don Quichotte par le curé et le barbier. On voit que sur ce seul exemple, ces interprétations ne sont pas nécessairement contradictoires, mais elles sédimentent différentes historicités qui donnent entrée dans le texte et qui permettent peut-être de s'approcher des compréhensions produites par lecteurs et spectateurs du XVIIe siècle, qui sont comme les conditions de possibilité pour qu'une pièce comme la Commedia de Guillén de Castro, qui joue constamment sur le rapport entre son propre texte et le texte du Quichotte, donc qui convoque cet horizon mental, ce système de représentation des spectateurs-lecteurs, des lecteurs devenus spectateurs, puissent être comprises. Et c'est donc ce que j'essaierai de continuer la fois prochaine, c'est-à-dire en entrant, puisque dans le second et le troisième acte, de la Commedia de Guillén de Castro et voir comment à la fois il manie son propre invention, le jeu entre les deux fils, et d'autre part comment il recompose pour la nécessité dramaturgique, l'ordre des événements donnés à voir aux spectateurs, ce que sont ces récits en boucle que l'on a rencontré la fois dernière dans le texte de Cervantes. Bien, merci. Bonne journée malgré les...
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.